Bien, ben donc nous sommes réunis pour parler d'une littérature que personnellement j'aime beaucoup, qui est la bitlite. J'ai intitulé cela la bitlite, une littérature pleine de mordant, puisqu'on parle de vampires. C'est un phénomène littéraire qui s'est développé depuis quelques années, qui est bien entendu ignoré par tous les critiques littéraires contemporains, parce que ça sort du cadre habituel de la littérature qui est considérée par eux. En effet, là, je vais vous parler de romans qui connaissent souvent des gros tirages. En 2010, à peu près un titre sur deux en France, parmi les 10 romans grand format les plus vendus, ressortait de la bitlite. Ce sont des livres qui, en plus, sont lus par un lectorat féminin et jeune, donc ça devient de pire en pire, et qui sont publiés pour la plupart par des maisons d'édition spécialisées, donc qui ne ressortent pas des quelques grands. Alors à partir de là, évidemment, ça ne peut pas être de la littérature. Alors, si on commence par la définition du terme, qui est peut-être pas forcément familier à tout le monde, un bitlite, c'est un terme anglais qui a été créé en France, il n'existe pas en anglais. Depuis les années 70, existait aux États-Unis une littérature qu'on appelait la chick lit, c'est la littérature dite de romance, hein, pour romans d'amour, etc. Et la chick lit, c'est chick, c'est une jeune femme, une jeune fille en argot américain. Et suite à un voyage aux États-Unis, il y a une employée de la maison d'édition Bragelon qui est spécialisée dans la fantasy, la SF, l'horreur. Donc elle avait découvert ce nouveau genre, donc la littérature vampirique pour femmes, et elle a créé de toute pièce le terme bitlit, donc de to bite, mordre, et de littérature. Le mot a eu un succès mérité, il est passé maintenant dans le langage courant. Donc, comme je vous l'ai dit avant, nous parlons là d'une littérature de vampires, de romans d'amour avec des héroïnes, et c'est un genre qui a renouvelé complètement la littérature vampirique. Et je dois dire que moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans cette littérature au début, c'est la créativité et l'inventivité des auteurs, qui sont toutes des femmes, et qui est sans doute l'une des clés de ce succès, qui a modifié de façon, je pense, durable maintenant, l'image traditionnelle du vampire, et aussi, il faut bien le dire, parce que du loup-garou, puisque la bitlite fait appel des fois à d'autres créatures surnaturelles. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière pour faire un petit peu d'histoire, le vampire, c'est une figure qui est apparue au grand jour, si j'ose dire, dans le courant du XVIIIe siècle. C'est là où il est devenu une figure populaire. Le vampire a commencé par être une créature considérée, entre guillemets, comme réelle, parce qu'il y a eu une grande épidémie de vampirisme dans l'Empire austro-hongrois dans les années 1750. Tous les journaux, les gazettes, comme on disait à l'époque, s'en sont emparés, d'autant plus que l'armée autrichienne a fait des enquêtes militaires. Il y a eu en France un traité de Don Calmette qui s'appelait le traité des apparitions de 1746, qui a apporté un retentissement considérable à ces histoires de vampires. Donc on part d'une créature réelle, et je dis bien entre guillemets, hein, quand même, mais le vampire fera son entrée, et une entrée fracassante, dans la littérature d'imagination en 1819, avec Lord Ruthven, qui est le personnage du roman Le Vampire de Polidori, que vous voyez ici. Le vampire donc va plaire. Image suivante, s'il te plaît, Cyril. Il deviendra un personnage très populaire avec la publication en feuilleton de Varney le Vampire de Reimer en 1846. Paul Féval, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent, entre autres pour Le Bossu, écrira des romans de vampires, lui aussi, dont La Cité des Vampires. Et le premier vampire féminin, Carmilla de Sheridan le Fanu, fera son apparition en 1872. Puis arrive 1897, c'est Dracula de Bram Stoker qui fixera d'une manière indélébile l'image de l'archétype du vampire et qui codifiera sans le vouloir l'image, la littérature vampirique. Image suivante. Merci. Alors, je n'ai pas résisté. C'est comme ça que j'ai découvert Dracula, l'édition Marabout, où, comme je crois un certain nombre de gens, inutile de dire que Dracula a connu en français d'innombrables éditions. L'une des dernières en date d'ailleurs étant chez GU, avec une couverture totalement biquite, assez amusante. Donc, avec Dracula, nous avons traditionnellement un personnage qui est sombre, assoiffé de sang, de haute noblesse, mais d'aspect assez peu reluisant. Et image suivante, s'il te plaît. Son image au cinéma est assez fidèle dans le film Nosferatu de 1922, c'est un film de Murnau, où vous voyez ici le comte Orlok, puisque pour des raisons de droit, Murnau n'a pas pu utiliser le nom de Dracula, mais en fait, Orlok, c'est Dracula. Puis ensuite, ce sera avec le Dracula de Todd Browning, 1931, que Bela Lugosi fixera à jamais le stéréotype du vampire. Hein, image suivante, le beau personnage au charme ténébreux, fan race, élégant, manière irréprochable, magnifique. Image qui sera ensuite, bien entendu, renforcée par l'autre grand Dracula de l'imaginaire cinématographique, le personnage qui a été incarné par Christopher Lee, hein, dans tous les films magnifiques de la Hammer, où il luttera toujours contre son ennemi éternel, qui est le professeur Van Helsing, incarné par Peter Cushing. Image suivante. Voilà, donc, grand Dracula de Christopher Lee. Voilà. La littérature vampirique, elle avait repris tout ce qui était devenu des poncifs depuis Dracula, et recyclé donc toujours plus ou moins la même histoire, sans, il faut bien l'avouer, beaucoup d'ingéniosité ou de créativité. Hein. Puis, il va y avoir un coup de tonnerre. En 1976, avec un roman qui va relancer l'intérêt pour les vampires, et en séduisant un lectorat immense, qui sera pour beaucoup féminin déjà, et je veux bien sûr parler, image suivante, d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Là, magnifique, le personnage tourmenté de Louis, hein, vampire français qui habite la Nouvelle-Orléans, marquera de manière indélébile toutes les mémoires, image suivante, et aidé bien entendu par son incarnation à l'écran, Tom Cruise. Anne Rice, vous savez sans doute, poursuivra toute la saga avec un certain nombre de romans à succès qui, dans les années 1990, amèneront au tournant irréversible qui sera celui d'Habitude. Et là, j'estime qu'on peut dater l'apparition de ce sous-genre donc, de la littérature vampirique avec quatre séries majeures qui vont lui donner ses lettres de notoriété, pour ne pas dire de noblesse, puisque souvent les vampires sont nobles. Donc la plus ancienne de ces séries, 1993, image suivante, c'est la série des aventures d'Anita Beck, hein, par Laurel K. Hamilton, donc, où on trouve une exécutrice vampire aux amours tourmentés. Il y a aussi une sexualité qui va devenir de plus en plus explicite au fur et à mesure que les romans vont se développer. Ça va être Anita Blake, ça va être un très très grand succès de librairie qui se continue, je crois qu'il y a maintenant, il y a déjà en français plus d'une vingtaine de romans. Image suivante, il y a aussi une BD qui commence à sortir. Autre série qui c'est sans doute la plus connue, c'est bien entendu image suivante, Buffy, la tueuse de vampires. Ça commence d'abord avec un film, puis ensuite, image suivante, s'il te plaît, la série télé que je crois, dont je crois tout le monde a vu au moins un ou deux épisodes. Puis ensuite, image suivante, des romans qui sont adaptés ou dérivés à partir de 1997, hein, de la série. Et puis, bien entendu, image suivante, aussi une BD. Alors, tout le monde connaît l'histoire hein, de Buffy, qui est d'abord lycéenne, puis étudiante. Buffy donc est entourée avec, de toute une équipe de copains. Il y a aussi son mentor, Giles, et elle passe son temps à combattre des vampires, des démons et tout un tas d'autres créatures surnaturelles dans cette ville absolument idyllique et représentative de la banlieue américaine qu'est Sunnyvale, mais qui pourtant n'est pas la petite ville tranquille à laquelle on pourrait s'attendre, puisqu'on va découvrir que c'est en fait la bouche de l'enfer. Et donc, ça permettra aussi, au cours de ses aventures, à Buffy, d'une part, de découvrir la sexualité, hein, en même temps que tous ses copains. Et puis, naturellement, elle va vivre des amours difficiles. Hein, elle tombe amoureuse d'Angèle, bien entendu, qui donnera d'ailleurs une série dérivée, l'image suivante. Voilà. Donc là, on trouve dans Buffy tous les ingrédients de ce que j'appellerais la bitlit classique. Hein, et tout ça développé, il y a plus d'une centaine de romans qui ont été écrits aux États-Unis, dont je crois à peu près la moitié a dû être traduite en français. Autre série fondatrice, image suivante, c'est bien entendu la superbe série de Charlan Harris, La Communauté du Sud. Ça commence en 2001, donc image suivante, voilà. Et là, ce sont, vous connaissez sans doute, les aventures sentimentales de Suki Stackhouse, hein, qui est une serveuse télépathe au Merlot, dans cette bourgade du Sud très très profond, qui est Bontemps, en Louisiane. Et donc ces aventures-là vont séduire un immense public. Et là, nous sommes dans un univers dans lequel les vampires, grâce à l'invention du sang artificiel qu'on appelle le True Blood, ont pu révéler publiquement leur existence. Et là, ça va permettre comme ça à l'auteur, en même temps, de réfléchir sur les conséquences sociales de l'existence des vampires, ainsi que sur celle de toutes les créatures surnaturelles possibles et imaginables, au fond des loups-garous, des métamorphes, des divinités anciennes, des démons divers, etc. Aussi sur les conséquences religieuses, il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis, donc c'est important, donc les conséquences religieuses de ce genre d'existence révélée. Et puis, bien entendu, ça permet à l'auteur aussi de s'étendre sur les amours extrêmement compliqués de Suki, et sur les conquêtes de son frère. Image suivante, bien entendu, la série télévisée True Blood va renforcer ce succès, et puis image suivante, il y a aussi bien sûr une BD maintenant dessus. Enfin, autre série qui est emblématique de la bitlit actuelle, c'est bien sûr image suivante, Twilight, de Stephenie Meyer. Plus de 3 millions de livres vendus, ça c'est vraiment ce qu'on peut appeler la littérature populaire. Donc là aussi, les aventures de Bella, qui est une jeune lycéenne qui a été transplantée de l'Arizona ensoleillée dans l'état de Washington, bien plus vieux, à Fox, autre petite ville américaine provinciale bien typique. Ces aventures-là vont aussi séduire beaucoup de jeunes lectrices qui se reconnaissent en elles, puisqu'on a affaire à une jeune fille qui est, il faut bien le dire, pas très bien dans sa peau, hein. C'est la fille d'un couple séparé. Elle doit s'intégrer dans un nouvel environnement, un nouveau lycée, etc. En plus de ça, elle doit choisir entre le bel Édouard et le séduisant Jacob. C'est un choix difficile, d'autant plus difficile que l'un est un vampire et l'autre un loup-garou. Alors, comment se décider, hein, c'est pas... En plus de ça, comme Stephenie Meyer, l'auteur est mormone, ce sont des romans qui restent, faut bien le dire, très chastes, hein, comparés aux séries que j'ai citées avant, Laurel Calhoun, et à un moment où ça devient quasiment de la pornographie dans ces romans. Bon. Et je pense que ça a été là aussi l'une des clés du succès de Stephenie Meyer et Twilight, c'est que là, les parents peuvent laisser leur fille lire sans crainte ces romans bien pensants, la morale est toujours sauve. Hein. Elle couche pas, elle embrasse à peine, il faut attendre 450 pages pour avoir droit au bisou très chaste, et puis le jour où elle couche, c'est parce qu'elle s'est mariée, elle tombe enceinte tout de suite, comme ça elle couche plus à nouveau. Donc du point de vue moral, c'est très très bien, hein. Rien à dire là-dessus. Alors, image suivante, les films tirés des romans ont été aussi des succès planétaires. Voilà. Donc, à travers ces quatre séries fondamentales, pour moi, l'univers de la bitlit est posé. Je vais vous proposer maintenant d'examiner un peu plus en détail, et je vais me servir pour ça d'exemples qui sont tirés de dizaines d'autres séries existantes, toutes les variations qui font la richesse de ces univers qui sont tous basés sur un ressort qui est finalement très simple. Hein. C'est un ressort basique de la littérature populaire. Et c'est une jeune femme tombe amoureuse de l'homme qu'il ne faut pas, ou elle fait face à un choix impossible entre deux hommes. Et toujours en de nombreux volumes, hein, de préférence, au moins 5 ou 6 minimum. Si on s'attaque d'abord, si j'ose dire, parce que c'est plutôt elle qui attaque en général, si on s'attaque à l'héroïne, dans la littérature vampirique classique, le héros est toujours un homme, grand séducteur de femmes bien entendu, et celui qui le chasse, quand le héros est un vampire, c'est lui aussi un homme. Dans la bit-lit, le principe de base est que nous avons toujours affaire à une héroïne. Alors, cette héroïne peut être totalement humaine, comme Bella dans Twilight, comme Elena, image suivante, qui est dans la série à succès Journal d'un vampire de Lisa Jane Smith, qui va donner, image suivante, aussi une très belle série télévisée. Ou encore, comme Vicky, image suivante, dans la belle série Vicky Nelson de Tanya. Donc là, on a affaire à une femme. Plus souvent, l'héroïne est aussi un vampire. C'est le cas, image suivante, de Liliana Marquette, hein, qui est une comtesse snob, qui a ouvert une agence patrimoniale pour vampires et loups-garous dans une série tout à fait hilarante qui s'appelle Vampin' Love de Kimberly Ray. Image suivante, de même Kelly Cahill dans le clan Cahill de Vega Forest et vampire et agent du FBI. On a aussi, image suivante, les demi-sœurs Kelly Monture et Lily Todd qui sont étudiantes à l'Académie Bathory de New York dans la série Vamp de Nancy Collins. Autre variation, c'est que l'héroïne est parfois seulement à demi-vampire, image suivante. C'est le cas de Riley Jensen dans la série du même titre, du même nom de Kerry Arthur. Et de manière originale, Riley Jensen est une métisse vampire et loup-garou, ce qui donne des possibilités assez intéressantes pour l'auteur. De même, image suivante, Rose dans la série Vampire Academy de Richard Mead est une vampire, c'est-à-dire qu'elle est mi-humaine, mi-vampire. Et il en va de même, image suivante, pour Catherine Crowfield, la chasseuse de la nuit, Janine Frost. On a aussi Sabine Aken et sa sœur jumelle Maisie, image suivante, dans la série éponyme donc, de J. Wells, qui elles sont des métisses de mages, c'est papa, et de vampires, c'est maman. Et toutes les deux sont des créatures surnaturelles issues de races ennemies qui n'auraient jamais dû se croiser, encore moins s'aimer et encore moins avoir des enfants. Mais malheureusement, dans ce cas-là, il n'y aurait pas eu de série. Fort heureusement pour nous, ils se sont rencontrés. L'héroïne peut être aussi un peu plus exotique. Image suivante, elle peut être loup-garou animatrice de radio, comme Kitty Norville, qui est l'héroïne de Carrie Vaughan. Ou, image suivante, Anna dans la série Alpha et Omega de Patricia Briggs, là aussi une loup-garou. Image suivante, l'héroïne peut être une sorcière de guerre comme Rebecca Keane de la série Cassandra O'Donnell. Elle peut être aussi un succube, image suivante. Un succube, on peut considérer ça comme une sorte de vampire psychique quelque part. Hein, c'est le cas de Georgina Kincaid dans la série extraordinaire de Richard Mead qui s'appelle Succubus. Et là, Georgina vit entourée de vampires qui sont des assistants de son patron qui est l'archidémon de Seattle. Bon, image suivante. Elle peut être aussi une exorciste, comme Morgan Kingsley de la série de Jenna Black. Ou enfin, elle peut être... il y a des héroïnes alors là de toutes sortes. C'est le cas de la série Femmes de l'autre monde, Katie Armstrong, où là, vous avez à peu près toute la palette de ce que j'ai décrit avant, image suivante. Voilà. Alors, maintenant, si on s'intéresse quand même, puisqu'on parle de littérature vampirique, intéressons-nous aux vampires. Hein, si on y représente quand même... La partie principale et l'intérêt principal de cette littérature. Alors, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, la bit-lit a fait éclater les codes du vampire entre guillemets traditionnel. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que là il faudrait faire une conférence entière sur le sujet, je dirais simplement que le vampire vêtu de la cape noire doublée de rouge, qui est un buveur de sang humain, qui part en fumée au soleil et qui se met à montrer les crocs en gémissant face à un crucifix à une tête d'ail, ça, c'est terminé. Hein. Aujourd'hui, on trouve des vampires qui vivent dans leur siècle, ils sont en jean et en t-shirt, en blouson de cuir et en scientag, éventuellement de temps en temps en costume trois pièces d'homme d'affaires. Le plus souvent, ils sont penchés sur leurs ordinateurs. Ils sont, en plus de ça, comble de l'horreur, ils peuvent supporter le soleil pour un certain nombre d'entre eux sans être gravement brûlés ou tués. Ils peuvent être totalement indifférents aux signes religieux. Dans un certain nombre de séries, les vampires disent, de toute façon, moi je suis athée, donc ça ne me touche pas, j'y crois pas. Ce qui est bien pratique. Et puis, ou alors, des fois aussi, ça ne peut les signes religieux ne fonctionnent que si le vampire avait été éduqué dans une certaine religion. Donc, si le vampire n'a pas été éduqué de manière catholique ou orthodoxe, les crucifix, ça ne fonctionne pas. À ma connaissance, ou alors si on prend des signes sacrés bouddhistes, ça fonctionne pas sur le vampire catholique. Je crois pas qu'il y ait une série où il y ait des vampires musulmans, je m'en souviens pas en tout cas. Là, donc je sais pas. Et quant au régime alimentaire, alors là, des vampires, il est devenu très éclectique. Hein. Il y a des vampires qui peuvent se nourrir de sang animal ou de sang humain. Il y en a d'autres qui ont résolu le problème, ils vont faire leur marché dans les banques du sang, hein, c'est pas mal. Éventuellement du sang artificiel, hein, comme le True Blood. Il y en a qui peuvent absorber des liquides autres que le sang, de la bière et surtout du bon vin. Hein, le bon vin, c'est très apprécié par les vampires fan race. Et les vampires épicuriens peuvent même déguster de vrais repas, soit pour le plaisir, soit comme substitut ou comme complément à leur régime à base d'hémoglobine. Le seul point qui ne change pas chez les vampires de la bitlite, c'est qu'en général, ils sont obligés de dormir le jour ou au moins de faire une grosse sieste. Pour le reste, ils vivent comme nous. Maintenant, si on regarde l'environnement dans lequel tout ce petit monde-là évolue. En général, ils sont sur notre Terre telle que nous la connaissons. Hein. Où vampires et autres créatures surnaturelles vivent toujours cachés et ils règlent leurs petites affaires entre eux, parfois alors avec l'accord du gouvernement américain, comme Catherine Crawford dans Chasseuse de la nuit. Catherine Crawford, elle dirige une équipe d'intervention mixte, hein, parce qu'il y a des créatures de toutes sortes en plus des humains, et c'est un service plus que discret du gouvernement. Il faut noter aussi que les vampires ont certaines préférences géographiques. Hein. Depuis Anne Rice, le vieux sud, le sud profond des États-Unis, c'est le lieu de villégiature préféré des vampires. Sans doute parce que aussi, aux yeux de l'Américain moyen, c'est là où coexistent ou coexister, et coexiste toujours en fait, d'ailleurs, art et douceur de vivre, sophistication et magie vaudou, hein, la Nouvelle-Orléans, qui est un lieu de perdition et de débauche, comme chacun le sait, les horreurs qui se déroulent lors du Mardi Gras tous les ans, oh là là, mon Dieu. Et donc, c'est un lieu de perdition et de débauche, donc la Nouvelle-Orléans, ça c'est le havre, non seulement, bien entendu, de Lesta et toute sa bande, mais aussi des vampires qui font travailler Jane Lillerock, qui est elle-même originaire d'Asheville, en Caroline du Nord. Et c'est dans un univers, alors là dans le cas de Jane Lillerock, c'est un univers dans lequel les vampires viennent juste de révéler leur existence, idem pour les loups-garous, donc on est en plein milieu du grand débat sur les droits en tant que citoyen américain ou non des vampires et des loups-garous. C'est d'ailleurs le même débat que l'on trouve par exemple dans la série Kitty Norville, où Kitty Norville, avec son émission de radio, revendique ses droits. Elle dit on peut naître loup-garou ou vampire comme on peut naître gay ou lesbienne, donc il n'y a pas de raison, on est tous des Américains et la Constitution nous protège. Ça c'est très amusant et typiquement américain. Si on revient maintenant aux localisations géographiques, donc on quitte la Nouvelle-Orléans, on s'enfonce un peu dans les bayous, on arrive à Bontemps où sont installés les vampires de la communauté du Sud. Les frères Salvatore, eux, qui dans le journal d'un vampire, sont installés dans un autre bastion de la Confédération. Ils sont installés à Fells Church, en Caroline du Sud. Il y a un certain nombre de vampires aussi qui aiment bien l'Amérique profonde et rurale. C'est le cas par exemple de Betsy Taylor, image suivante, hein, dans la série Queen Betsy de Marie-Janice Davidson, elle habite le Minnesota. De même, image suivante, le lycée Saint-Vladimir, qui est fréquenté par Rosa Taoué et par la princesse vampire Moroy qu'elle protège, qui s'appelle Lisa Dadromir. Elle se trouve au fin, ce lycée-là se trouve au fin fond des forêts du Montana, hein, dans la série Vampire Academy. De même, par exemple, les immortels, je vais avancer un petit peu, désolé, les immortels là, de la série de Kate Tiernan, eux vivent dans une grande ferme au fin fond de l'État de New York. Rebecca Keane, elle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sorcière de guerre, s'est installée à Burlington, dans le Vermont, donc plus perdu que ça, c'est difficile. Les vampires du clan Cahill, eux, sont restés sur la côte atlantique, dans une petite ville du Delaware, Clearpoint, ville qui leur appartient, mais qui a l'avantage de ne pas être très loin des grandes villes que sont Baltimore, Washington. Grandes villes qui, justement, avec leur anonymat garanti, séduisent un certain nombre de vampires. Chicago, par exemple, est le lieu de résidence de Merritt, qui est sentinelle de la maison Cadogan, et de trois autres maisons de vampires. Image suivante, c'est la série de Coligny qui s'appelle Les Vampires de Chicago. Et là aussi, on est dans un univers qui étudie les suites, les conséquences de la révélation officielle de l'existence des vampires. Quant aux vampires de la famille Argenault, image suivante, eux, ils préfèrent vivre de l'autre côté des Grands Lacs, ils sont à Toronto, vampires canadiens. New York, bien entendu, est une ville que les vampires adorent. Liliana Marquette, dont je vous parlais tout à l'heure, y a monté son agence de Vampire Love. Les demi-sœurs aussi de la série Vamp, Cali et Lilith, vont à l'Académie Bathory, qui est dans cette ville. Ça leur permet, ça présente un autre avantage pour ces jeunes vampiresses de bonne famille, c'est qu'elles peuvent passer leur nuit en boîte. La série insiste beaucoup là-dessus. Elena Devereaux, elle, qui est une chasseuse de vampires, évolue dans une New York qui est dominée par Raphaël, archange d'Amérique, dans un monde qui est semblable au nôtre, mais image suivante, qui est dirigé par des archanges et des anges qui sont en fait quasi démoniaques et qui sont eux-mêmes servis par des vampires. C'est un monde très très intrigant qui est développé par Nalini Singh dans cette série qui s'appelle Chasseuse de vampires. C'est extrêmement curieux et très 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 intéressant. Je ne vous étonnerai pas en vous disant que quasiment aucun vampire n'habite la côte ouest, hein, parce que le soleil de Los Angeles et de la Californie ne les attire pas beaucoup, à l'exception quand même de la Vignaken, qui est domina des vampires, et la grand-mère plus qu'indigne de Sabine Aken, dans la série de Jay Wells. Alors il faut remonter quand même plus au nord de la côte pacifique, pour arriver dans le bel état très pluvieux de Washington, où on trouve à Seattle Georgina Kincaid, hein, qui exerce son beau métier de libraire et accessoirement aspire aussi les âmes de ses conquêtes de passage, entourée de tous ses copains vampires, qui eux sont juste des suceurs de sang tout à fait normaux. Hein, ça, c'est la série Succubus. Ou encore un peu plus loin dans l'état de Washington, plus profond, la ville de Fort, bien sûr, où vit Bella, l'héroïne de Twilight, avec tous les vampires et loups-garous éparpillés un peu partout autour. Il n'y a guère, en fait, que Alexandra Tarabotti, qui est la sans-âme de la superbe série Le Protectorat de l'Ombrelle, image suivante, la série de Gail Carriger, qui, elle, habite à Londres, mais c'est un Londres victorien qui dérouterait complètement le comte Dracula, hein, parce que c'est un Londres totalement steampunk, c'est-à-dire qu'on commence à y avoir des dirigeables, des sortes d'automates à vapeur, etc. Un monde complètement étrange. Et en fait, il y a aussi Diana Bishop, qui est une sorcière d'origine américaine, qui elle vit en Angleterre, à Oxford, et puis ensuite, par la force des choses, elle va se retrouver à vivre en France, image suivante, dans le livre perdu des sortilèges. de Deborah Harkness, qui est un très beau roman, que je cite parce que je l'aime beaucoup, mais qui est aux marges, je dirais, de la Bitlit. C'est aussi un roman historique, etc. Très très beau. Et l'autre exception à la règle, c'est Riley Jensen, qui habite, elle, carrément dans le sud le plus profond qui soit, puisqu'elle habite dans l'hémisphère sud, à Melbourne, en Australie. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, notre héroïne vit en général entourée d'amis. Il y a toute une bande, alors là aussi, il serait trop long de rentrer dans le détail, parce que c'est très varié, mais comme dans toute bonne littérature populaire qui se respecte, donc l'héroïne est entourée de sa petite bande qui lui permet comme ça de décompresser et de s'épancher. Comme on a affaire à des romans qui, à l'exception de ce de Riley Jensen, sont écrits par des auteurs américaines, donc politiquement correct oblige, on y trouve tous les sexes, toutes les préférences sexuelles, toutes les variations possibles et imaginables de couleurs d'épiderme, sans parler de toutes les variations possibles et imaginables de créatures surnaturelles. Alors, je résiste quand même pas d'en citer quelques-uns de ces personnages secondaires au passage. Alors, il y a par exemple Jessica, qui est l'amie noire plus riche que Bill Gates, et Marc, l'interne gay, qui sont les soutiens de Betsy dans la série Queen Betsy. Hein, il y a aussi la joyeuse bande d'amis de Catherine Crawfield, qui est donc la chef de cette brigade d'intervention, où on trouve des militaires qui sont des humains, des vampires, des loups-garous, des ghouls, et de toutes les origines ethniques possibles, hein, dans la série Chasseuse de la nuit. De même, dans la série Succubus, dont je vous parlais tout à l'heure, les copains de Georgina Kincaid, ce sont des vampires, un vieux voyant noir, Bastien qui est un incube, l'archidémon de Seattle, Jérôme, et son meilleur copain qui est l'archange de Seattle, un archange qui d'ailleurs est buveur et fumeur invétéré. Dans d'autres cas, l'héroïne est solitaire, mais dans ce cas-là, elle aura un appui. Le meilleur ami de Riley Jensen, donc la vampire de métis et de loup-garou qui vit à Melbourne, c'est son frère jumeau, qui est gay. Comme ça, au moins, le politiquement correct continue de s'appliquer. Comme est gay, et pour un partenaire, l'un des deux partenaires, un démon, le couple sadomasochiste, qui est ami de Morgan Kingsley. Jamie Lerock, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, qui est une chasseuse de vampires chamane indienne, et donc qui chasse à la Nouvelle-Orléans. Donc elle peut compter sur le soutien de son amie Molly, qui est une sorcière, alors que Sabina Ken, dont je vous ai parlé, qui habite elle dans le Vermont, peut compter sur le soutien sans faille de son familier. Non, pardon, Sabina Ken, elle habite pas dans le Vermont, elle habite aussi dans le sud des États-Unis. Donc, le démon de Sabina, c'est son familier, c'est un démon de discorde, qui s'appelle Guidule et qui est un amateur inconditionnel de chaînes de téléachat et de porno. Alors, autre point fondamental, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est le ressort de toutes ces séries politiques, ce sont bien entendu les amours de nos héroïnes. Et là, on arrive donc à ce qui est le fondement et la raison d'être de la politique. C'est-à-dire une histoire d'amour qui est difficile, compliquée, impossible. D'autant plus qu'on est souvent aux États-Unis, qui est un pays qui est quand même plus coincé quelque part que le nôtre en la matière, avec le poids de la religion en plus. Donc là, on peut distinguer deux variétés de bitlit. D'une part, il y a les séries pour adolescentes, où là, les émois sont plus simples tout en étant aussi douloureux. Puis-je aimer ce garçon? Dois-je l'aimer? Jusqu'où puis-je aller? Très important. Kali, dans la série Vamps, tombe amoureuse de Peter Van Helsing, qui est un chasseur de vampires, alors qu'elle est vampire, Et Rose, dans la série Vampire Academy, adore son tuteur Dimitri. C'est un amour impossible puisqu'ils sont tous les deux gardiens et protecteurs de leur maître. Donc, ils n'ont pas le droit parce que sinon, on considère que ça pourrait faire baisser un petit peu leur attention. Hein? En plus de ça, dans le cas de Dimitri, manque de bol, il est transformé en Strigoi, c'est-à-dire en vampire noir, les ennemis des maîtres qu'il protège. Bon. Le choix est difficile aussi dans le cas de Sabina Ken, parce qu'elle tombe amoureuse du beau mage Adam, garde de la Pythie, et Sabina Ken, elle, ayant été éduquée dans la cour des vampires de Californie, le mage, c'est l'ennemi à abattre. Dans les séries pour jeunes adultes, là, la situation se complique, parce qu'il s'agit souvent d'un choix impossible entre deux soupirants, l'un étant humain et l'autre surnaturel en général. Par exemple, Vicki Nelson hésite entre Henry, beau vampire anglais de sang royal en plus, ce qui ne gâte rien, et puis Mike Cellucci, qui est lui aussi un bel homme, mais qui est un policier italo-américain. Alors évidemment, entre les deux, c'est pas du tout la même chose, mais son cœur balance. De même, Kelly Cahill, vampire agent du FBI, hésite entre son soupirant humain et son cousin vampire. Ou alors, l'histoire d'amour est difficile parce que souvent les auteurs insistent sur la différence d'éducation entre les vampires, créatures anciennes par définition, à l'éducation souvent d'un autre âge puisqu'ils sont très vieux, qui considèrent encore souvent les femmes comme des petites choses fragiles que l'on protège et que l'on possède. C'est le cas par exemple du très distingué professeur Mathieu Clermont, qui est un vampire issu d'une très vieille famille aristocratique française, hein, dans le livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Et évidemment, ça passe mal avec nos héroïnes, qui elles sont des femmes modernes, libérées, qui ont souvent un travail, et encore plus souvent, un travail qui implique la maîtrise d'un certain nombre d'armes et de techniques de combat. Donc, l'héroïne fragile qui s'évanouit en poussant un cri, c'est pas ça, et pour les vampires, c'est dur aussi. Elena Devereaux, par exemple, vit une histoire d'amour fou et compliqué avec Raphaël, suite à la différence de mentalité. Lui est un archange surpuissant, maître du monde et de New York, mais on sait que c'est la même chose. Alors qu'elle est une humaine qui a été transformée en ange. De même, mérite dans Les Vampires Chicago une aventure très compliquée avec Ethan Sullivan, qui est maître de l'une des maisons de vampires, et son suzerain. Liliana Marquette dans la série Vampire Love vit aussi une histoire d'amour extrêmement compliquée avec Ty Bonner, qui est vampire. Alors ça va, ils sont tous les deux vampires, mais lui c'est un vampire chasseur de primes, qui en plus de ça a la tête bien solidement accrochée aux épaules, contrairement à Liliana Marquette, qui est complètement fofolle. Dans le cas de Betsy Taylor, seule sa passion des belles chaussures, elle en a au moins autant qu'Imelda Marcos, lui permet de rester presque saine d'esprit pour vivre sa relation, qui est une relation amour-haine, avec le beau Eric Sinclair, qui lui est un vieux vampire un peu trop possessif et vieux jeu. Et cela après qu'elle ait abandonné ses vues sur l'inspecteur de police humain Nick Berry. De même, l'image suivante, Mina Harper, dans la série Insatiable de Meg Cabot, a aussi du mal. Comment concilier son travail de devineresse dans la garde palatine, hein, cette branche secrète du Vatican chargée d'éradiquer vampires et autres créatures démoniaques, alors que son cœur, et puis le reste aussi dans la série, fondent en présence de Lucien Antonescu, fils de Dracula et prince des démons. Hein? Pas facile. Bon. Finalement, les choses sont encore plus difficiles, quelque part, quand en couchant avec votre ami, vous buvez une partie de son âme et vous raccourcissez sa durée de vie plusieurs années à chaque fois. C'est le dilemme de Georgina Kincaid, la sympathique et tendre succube libraire, amoureuse du bel écrivain humain Seth Mortensen. Alors là, c'est bien pire. Donc, voilà. Bon. comme vous venez de voir, donc la BitLit, à travers ces différents exemples que je viens de vous donner, a remis en cause et cassé dans le cadre de la littérature, a cassé le cadre de la littérature empirique traditionnelle.
Ah, désolé, vraiment.
Ça n'est pas un vampire qui m'appelle, hein, je vous le dis tout de suite. Quoique, mais donc, la BitLit, en remettant en cause et en cassant donc le cadre de la littérature empirique traditionnelle, a fait entrer cette littérature de plein pied dans notre époque. Et c'est ça qui est fondamental, c'est qu'elle l'a remis au goût du jour. Et c'est ce qui ont fait tout l'attrait. J'espère que cette brève présentation que je viens de vous faire vous donnera aussi envie de découvrir cette littérature qui est à la fois très populaire et très diverse. Merci beaucoup. Ah, et image suivante, et si jamais vous voulez approfondir la BitLit, voilà, il y a une bibliographie qui vient d'être établie par Alash Proel, hein, qui est un petit stand là-bas. Et donc, vous aurez, je ne sais plus, dedans, les 75 séries, je crois, qui se publient en France à peu près à l'heure actuelle. Je ne sais plus combien ça fait de volume, un peu plus de 600, etc. Et j'ai été effrayé en la consultant, parce que je me suis aperçu que je les connaissais toutes. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. Maintenant qu'ils supportent le jour, ils peuvent venir. J'ai parlé là spécifiquement de BitLit. Mais la BitLit, pour l'instant, à l'exception de Cassandra O'Donnell, qui est le pseudonyme d'une auteure française, il n'y a que des auteurs anglo-saxons, disons d'une manière générale. Et Cassandra O'Donnell, donc, a pris ce pseudo pour un peu tromper son monde, quelque part, et a fait habiter son héroïne aux États-Unis, dans le Vermont. En France, on trouve des vampires que dans ce que j'appellerais la littérature vampirique plus traditionnelle. C'est par exemple, très récemment, l'excellent roman de Jeanne Fèvre d'Arcier, dont le titre m'échappe comme ça, mais qui vient de sortir chez Bragelonne il y a quelques semaines, roman remarquable, mais qui est là un roman de littérature vampirique traditionnelle. Curieusement, c'est un point que j'ai oublié, sur lequel j'aurais pu insister un peu plus, c'est que dans la littérature américaine, dans la BitLit, très souvent, les vampires sont d'origine française. Hein, ça avait commencé avec les stars, mais ça continue après, parce que quelque part, dans l'imagerie populaire, tout ce qui est français reste synonyme de classe, d'éducation, d'art de vivre. Et ça marque encore aujourd'hui, très souvent aussi, dans les romans, l'héroïne, à un moment ou à un autre, quand elle a enfin réussi à tomber amoureuse et à résoudre en tout ou en partie son dilemme, c'est « Oh, et quand est-ce qu'on va aller à Paris ?» Voilà, et souvent, ce sont, ils sont d'origine française. Voilà. Il y en a aussi. Ben, ils sont tous, mais on constate très souvent que les vampires sont d'origine d'abord française, ensuite britannique. Mais les Français ont la préférence. Oui.
C'est vraiment spécifique à
Buffy. Il me semble, je n'en ai vu que sur Buffy. Je ne suis pas sûr. Il y a sûrement eu des études, peut-être sur des études universitaires sur d'autres grandes séries. Mais là, s'il y en a, je ne les connais pas. Mais Buffy a été un tel phénomène entre le succès c'est le succès de la série télévisée là, qui a lancé vraiment Buffy. Les romans dont j'ai parlé ne sont qu'un produit dérivé. Hein. C'est d'abord le film, puis surtout la série télévisée qui ont fait le succès de Buffy. Je pense que de même, par exemple, le succès de Charlène Harris avec la communauté du Sud a été principalement assuré par la série True Blood. Les gens connaissent plus True Blood que la communauté du Sud. Parce que je suis un lecteur avide de tous les genres. Je suis un gros lecteur depuis toujours, grand fan de science-fiction, grand fan de fantasy et de littérature fantastique. Et quand la Big Hit a commencé, j'ai commencé. Hein. J'ai lu Anne Rice quand c'est sorti. J'étais devant mon poste de télévision à regarder Buffy. Je suis un grand pervers, en fait. Et donc, la Big Hit a suivi. Et justement, j'ai commencé à en découvrir sortie des séries fondamentales. Enfin, j'ai adoré, par exemple, la communauté du Sud, quand je l'ai découvert, parce qu'en plus de ça, il y avait des éléments de science-fiction dedans, quelque part, même sans artificiel et tout. Et après ça, j'ai commencé à lire, il n'y a pas de mystère, hein, c'est principalement avec les éditions de Rajlon, Milady, tout ce qui sortait, et je me suis aperçu que ça cassait complètement tout ce que j'avais lu pendant des dizaines d'années avant, et ça m'a beaucoup séduit, parce que en plus c'est une littérature qui n'a pas oublié ce qui est pour moi la base de la littérature, c'est-à-dire donner du plaisir au lecteur. Quand je lis les vampires Argenau, où c'est une mise en abîme continuelle de tous les codes, hein, le petit bébé de la famille qui a 200 ans est anorexique parce qu'elle ne supporte pas la vie du sang, quand on est vampire, je trouve ça génial. Moi, ça, personnellement, ça me fait hurler de rire quand je lis ça. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à la littérature, à la Bitlite, mais je ne lis pas que ça. Enfin, j'espère que ça vous aura donné envie d'en lire. Merci encore.